êtes dans l'émission Au fond près du radiateur, qui est rediffusée aussi le vendredi matin de 7h à 8h30 sur les ondes du 106.3 FM sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Et ça, c'est en région parisienne et www.rfpp.net partout dans le monde. Moi-même, je suis un peu en diagonale sur mon micro, comme ça je vais essayer de me mettre bien. C'est les aléas du direct. On fait un big up à la technique d'emblée en début d'émission. Mathéo et qui est Family Beats avec Tiffen, Raph et Tom qui sont derrière. Non, Raph, il est sur le plateau. D'ailleurs, on va présenter un peu les gens qui sont avec nous ce soir. Il y a Mouloud aussi.
Bah, bonsoir.
Il y a Véronica qui sera notre invitée ce soir.
Salut.
Puis, bah, comme je l'ai dit, il y a aussi Raph. Oui, salut. Et puis, bah, tous les autres que j'ai cités, je cite aussi ceux qui ne sont pas là, qui vont peut-être arriver, Madeleine. Et puis, Tom et Sarah qui nous écoutent sûrement au bord de la Méditerranée. On va faire un peu le sommaire de cette émission. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais vous êtes dans l'émission Au fond près du radiateur. Et donc, dans cette émission, on va parler de plusieurs choses. D'abord, on va vous réannoncer, harceler, vous marteler les oreilles avec notre soirée de soutien. Donc, on organise ce vendredi 12 avril prochain au Transfo à Bagnolet. Et donc, une soirée de soutien où tous les bénéfices seront reversés à la Radio Fréquence Paris Pluriel. On vous parlera donc de cet événement, on vous lira un petit peu le texte qui accompagne cette soirée, et puis on vous donnera les derniers conseils pour ceux qui comptent venir. On abordera après, ensuite, dans le vif de cette émission, avec Véronica, tout un tas de questions qu'on a un peu préparées, des thèmes qu'on avait envie d'aborder avec toi. Puisque bah, tu es une militante de longue date sur bah, les questions du VIH et puis bah, aujourd'hui avec l'actualité contre toute l'homophobie qui te déferle en ce moment, on viendra aussi à parler de ça et de cette actualité qu'on aborde depuis déjà quelques mois hein, sous un angle plutôt mauvais genre, voilà, c'est ça que j'avais envie de dire parce que c'est vrai que par rapport à tout ce qui se fait de très pur comme ça en ce moment là dans la rue, nous on avait envie quand même de prendre le contre-pied et d'affirmer notre mauvais genre. On y reviendra dans le cours de cette émission et puis on finira aussi par aborder la lutte des ouvriers de PSA Aulnay puisque comme vous le savez on est dans la 12e semaine de grève, qu'il y a toujours des grévistes et que la lutte continue, on vous en parlera en fin d'émission. On va peut-être faire une pause musicale histoire de souffler, on revient tout de suite après au fond près du radiateur.
Je déteste ce type, je voudrais qu'il meure.
Ne dites pas ça.
C'est vrai, j'aimerais qu'il meure.
S'il lui arrivait quelque chose, vous vous sentiriez mal.
Oh non, pas du
si,
tout.
J'en suis sûr.
Ah non, pas du tout.
Si, j'en suis sûr.
Ah non, pas du tout.
Aller au cimetière de bonne humeur, c'est plutôt rare. J'irai à ton enterrement, puis j'irai fêter ça au bar. J'arroserai ça au champagne quand tu quitteras ce monde. C'est le remix de vieilles canailles et j'irai cracher sur vos tombes. Je serai content quand tu mourras, comme après une bonne nouvelle. Si j'organise une collecte, c'est pour acheter une bonne bouteille. Et je lèverai mon verre en t'imaginant gisant, en disant j'espère qu'il a bien souffert. J'espère même que tu seras pas seul et que t'emporteras tes potes et tes proches aussi. Je te souhaite la mort la plus moche possible, pourvu que ton destin soit sévère et que tu quittes cette terre avant moi que je te chante cette air. Meurs, motherfucker, meurs. On organise une petite réception en ton honneur. Aucune prière, aucune fleur, pas une goutte de compassion dans mon relevé. Un seul regret, ne pas t'avoir vu crever, trembler de peur. J'attendais impatiemment ton heure. On a prévu une fête en ton honneur. Aucune prière, aucune fleur, pas une goutte de compassion dans mon relevé. Un seul regret, ne pas t'avoir crevé. J'attends ta chute comme un magazine People. Et je m'approprierai bien le rôle de Michael C. Hall. Impassible au possible, aucune pitié, aucune. Que de la haine comme en falche, que de la rancune. Je ne te regretterai pas, aucun pincement au cœur. Si on t'assassine, je souhaite qu'on ne retrouve jamais l'auteur. Pas non plus l'arme qui aura servi à chatouiller tes viscères. Laissez courir le fuyard, monsieur le commissaire. J'aimerais lire ton histoire dans le Parisien. Aux pages fait divers. Pour l'heure, tu respires encore et c'est dommage. Ne me gâche pas la fête. Peu importe la manière, pourvu que tu quittes cette terre avant moi que je te chante cette air. Meurs, motherfucker, meurs. On organise une petite réception en ton honneur. Aucune prière, aucune fleur, pas une goutte de compassion dans mon revêt. Un seul regret, ne pas t'avoir vu crever, trembler de peur. J'attendais impatiemment ton heure. On a prévu une fête en ton honneur. Aucune prière, aucune fleur, pas une goutte de compassion dans mon revêt. Un seul regret, ne pas t'avoir crevé.
Voilà, c'était spécial dédicace à Margaret Thatcher. C'était un morceau de Flint qui s'appelle « Quand tu seras mort ». On a appris la mort de Margaret Thatcher hier et voilà, ça nous a fait plaisir quoi, parce que elle a duré quand même plus de 80 ans et c'était beaucoup trop quoi. Et donc pour rappeler Margaret Thatcher, c'était qui notamment on se souvient de ce qu'elle a fait avec les grévistes de la faim de l'IRA, donc elle les a laissés crever, les prisonniers politiques de l'IRA. Entre autres, elle a aussi bondi de joie quand les Argentins, quand le gouvernement argentin, la dictature argentine a envahi les Malouines. Elle s'est fait un plaisir d'envoyer des bateaux et de faire une guerre assez meurtrière juste pour remonter dans les sondages et se refaire élire. Donc c'est 600, plus de 1000 morts, la guerre des Malouines, et c'est vraiment un truc qui a exacerbé le sentiment nationaliste en Angleterre. Il y a un film qui s'appelle This is England qui parle pas mal de ça, qui est pas mal et tout. C'est aussi celle qui a écrasé les révoltes des banlieues à Brixton ou des choses comme ça, les révoltes des banlieues noires ou quoi. Celle qui a écrasé la grève des mineurs au début des années 80 et qui a imposé le néolibéralisme en Angleterre et qui ensuite a donné des conférences une fois qu'elle était plus au pouvoir un peu partout en Europe pour imposer ce modèle-là, donc privatisation massive des services publics, par exemple BP, Rolls-Royce ou des choses comme ça, c'était public avant. Et donc voilà, elle a imposé la privatisation de toutes ces choses-là, ce qui a été fait ensuite dans tous les autres pays en Europe. Et donc voilà, elle est morte hier et ça nous a fait plaisir. Et voilà, c'est pour ça qu'on voulait lui dédicacer cette chanson.
On sabrera le champagne en tout cas, ça c'est sûr. Et puis ce qui est clair, c'est qu'effectivement, beaucoup de tenants du néolibéralisme actuel qu'on connaît et dont on bouffe la merde tous les jours se réclament de cette figure, de ce symbole qui a été Margaret Thatcher pour cette idéologie-là. Donc on va vraiment pas pleurer sur cette personne. Et puis au contraire, on vous invite à cette soirée pour venir sabrer le champagne avec nous le 12 avril. Donc.
Venez, ça va être bien.
Ça va être bien. Il y a encore une raison de plus pour faire la fête. Et donc justement, on va continuer par vous annoncer cette soirée qu'on organise. C'est la FPP Dub Party. Ça sera donc au Transfo. C'est à Bagnolet, 57 avenue de la République, métro Galigny ou Robespierre. Ça sera une soirée de soutien à la radio Fréquence Paris Pluriel, donc radio sur laquelle on émet 106.3 FM. Et puis le mieux, c'est quand même que je vous lise le petit texte qu'on a tenté d'écrire, qu'on a repris un petit peu parce qu'il y avait quand même des idées déjà bien présentes dans nos tuyaux, parce que ça explique bien, c'est un petit texte qui explique bien un peu comment on veut voir les choses dorénavant dans notre radio. Donc je vous cite ce court texte. Fréquence Paris Pluriel, 106.3 est une radio associative, libre, indépendante et sans publicité. Notre radio donne la parole à tous ceux qui luttent. Antifascisme, prison, chômage, féminisme, solidarité internationale, écologie, sans-papiers, et j'en passe. Notre radio donne la parole aux communautés étrangères de Paris et de banlieue. Notre radio fait entendre toutes les musiques qui dérangent et qui parfois empêchent de dormir les voisins. Notre radio se fout de l'industrie du disque. Notre radio, après plus de 20 ans, est encore debout, avec plus de 200 militants bénévoles qui, chaque jour, chaque semaine, prennent l'antenne pour faire entendre d'autres voix. La radio n'est pas notre métier, c'est notre passion. Notre outil commun pour les luttes, la culture, le haut-parleur de nos désirs d'émancipation. Face au désengagement de l'État, aux baisses des subventions et au contrôle de plus en plus politique de l'activité associative, nous ne nous tairons pas. Cette soirée de soutien sert à aller vers une autonomie financière, garante de notre indépendance et de notre liberté, faire la fête parce que ça ne fait jamais de mal, et sortir de la radio de ses murs pour rencontrer nos auditeurs. Les radios libres vivront. Voilà donc le petit texte d'appel donc à cet événement. Donc FPP Dub Party, ça sera le 12 avril, donc vendredi prochain, au Transfo. Donc on vous rappelle quand même, le thème musical de cette soirée sera donc le dub, la musique dub sur laquelle on a déjà un peu étalé nos connaissances dans cette émission de radio. On avait même invité le Sound System qui sera à l'honneur ce soir-là. Donc c'est Stepper Alien Sound System. On rappelle que c'est des gens qui ont fabriqué leurs murs de son de manière autonome et qui donc diffusent leur son de manière autonome, ce qui rentre un peu aussi dans le principe de cette soirée. Et ça fait toujours plaisir. Ces gens-là ont aussi une émission sur la même antenne, donc c'est Dub on Top, le samedi à 3h du matin sur la même antenne, 106.3 FM, vous pouvez les écouter, vous pouvez découvrir ce style de musique à ce moment-là. Et puis, rappelez aussi que cette soirée, ce sera l'occasion donc de faire la fête, mais de manière vraiment non commerciale, donc un peu un des principes de cette radio. Tout sera donc à prix libre lors de cette soirée, l'entrée comme la nourriture et la boisson qui seront à disposition au bar. Donc ça ne veut pas forcément dire gratuit, mais c'est vraiment voilà, une façon aussi de ne pas établir des rapports marchands dans ce type de soirée, puisque la première objectif qu'on veut, c'est vraiment que les gens puissent se rencontrer et faire la fête et que tous ces soucis passent en arrière-plan. Voilà, donc on vous invite vraiment tous et toutes à venir faire la fête. Je rappelle, c'est vendredi 12 avril prochain, donc au Transfo à Bagnolet, métro Galigny, au Robespierre. Et puis bah, ça commencera à partir de 20h, aux environs de 20h. Ça finira aux alentours de 2h du matin. En tout cas, les entrées au lieu se finiront à 2h du matin. Et puis la soirée pourra se prolonger pour ceux qui resteront jusqu'au petit matin, jusqu'à 5h. Donc on invite tout le monde, tous et toutes, à venir. Et puis bah, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail si vous avez des questions, des recommandations, des envies pour cette soirée. C'est au fond près du radiateur @no-log.org. Voilà, on attaché en minuscule. On a même une autre adresse mail créée pour l'occasion, c'est fppdubparty@gmail.com. Et puis on a même un site internet où vous pouvez aller retrouver tout ce que je viens de vous dire. C'est www.aufondpresduradiateur.fr. Voilà, on fera un petit point en fin d'émission sur cette soirée pour que vous n'oubliez pas et que vous ne perdiez pas tout ça de vue. On se fait une petite pause musicale, on revient tout de suite après au fond près du radiateur.
On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums.
On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums. Je veux du rhum, pas des chrysanthèmes. Au générique de fin de cette mise en scène, je maudis le monde sans attendre qu'on m'aime. Vais où mes propres mélodies m'emmènent. Et je vis sans gêne et j'écris sans chaîne. Mon mépris a pris, je le crie quand même. D'où mes rimes proviennent, sache que nos peines, même les plus anciennes, font des prisons pleines.
Parfois c'est vital, on peut pas toujours éviter de confronter ses opinions et ses idées. Même si ça blesse au fond, il y a encore plus profond, encore des sous-sols quand on pense toucher le fond. Des tas de choses auxquelles on n'a pas encore songé. Laissé pour mort, il finira par se venger. Y a pas de notice, des gens vrais et d'autres factices. Un jour il réclame son dû, c'est avec le diable tu pactises. On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums.
On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums.
Souvent je me dis que j'ai trop de haine pour un seul star. Là je suis montré du doigt quand je me balade par-ci par-là. Les regards me soupçonnent, pourtant je connais personne. Qu'on me foute la paix, c'est en particulier ce que j'affectionne. Je prends le train en marche, là c'est d'attendre à quai. Qu'on veuille bien m'utiliser comme un laquais. Qu'on pense enfin à m'intégrer dans le système, je sais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Et malgré les sales plans, je recherche les talbins. Je remplis les calepins et je fuis les parfums. Et puis je tiens tout le temps des propos insultants, expliquant comment je l'ai et à quel point. J'en ai connu tellement, des moments déroutants, que je vis dans l'instant, que plus rien ne m'atteint. Si personne ne m'entend, je ne vais pas pour autant aller le dos voûté à la face des pantins.
On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums.
On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums.
On tente notre chance et on joue carte sur table. Pendant que tout s'écroule, on cherche encore le Graal. En maudissant la guigne, quand le doute nous gagne, je pense que la musique rend malade autant qu'elle nous
soigne. Les choses, je les prends comme elles viennent. Vu que la crise et les coups et les cours d'assises ont attisé les flammes sur beaucoup, nous ont brisé le cou, dis-moi combien tiennent.
Vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19 à 20h30 sur le fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et www.rfpp.net partout dans le monde. Mouloud, peut-être que je te laisse introduire le sujet dont on va parler ce soir.
Bah d'abord, bonsoir Véronica.
Bonsoir.
Et je voulais te dire qu'au nom de notre émission, on trouve vraiment très sympa que tu sois là.
Voilà, je suis ravie. Hein, je suis ravie depuis le temps que tu me parles de FPP. Et j'ai eu déjà l'occasion, bien sûr, de vous suivre, notamment sur Internet. Donc,
d'accord.
Ça me fait particulièrement plaisir
d'être
ici.
C'est très sympa. Parce qu'à la base, on s'était dit, quand on avait vu toutes ces manifs contre le mariage, etc., qu'il fallait faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de mettre nos micros un peu là où les gens luttent. Et c'est vrai qu'on a passé à plusieurs reprises des interviews et des trucs autour du collectif Oui Oui Oui. C'est dans ce cadre-là que, puisqu'on a passé du son, maintenant c'est bien de prendre le temps pour un peu scruter un peu les choses et t'interviewer. Voilà. Donc on a fait un petit plan. Donc on va essayer de voir si ça marche. Et donc Véronica, comment toi tu te présenterais aux auditeurs ?
Aujourd'hui, je me présente comme effectivement une militante. Je pense que les derniers événements de ces derniers mois ont vraiment forgé une conscience militante sur les questions LGBT, je dirais plus lesbiennes. Alors c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Je suis ce qu'on dit une vendange tardive, en tout cas moi je le dis comme ça, une vendange tardive, c'est-à-dire j'ai découvert mon homosexualité relativement tard, à l'âge de 29 ans. Ça a été un vrai bouleversement personnel bien sûr, mais aussi politique. Et c'était peu à peu, j'étais dans le placard pendant un certain temps. Donc c'est pour ça que je ne juge pas les personnes qui sont dans le placard, parce que je comprends aussi la souffrance que cela représente de se sentir dans un secret intenable. Et peu à peu, aussi grâce aux rencontres, bien sûr, j'ai pu forger cette conscience militante. Et aujourd'hui, je me sens vraiment à part entière une militante pour les droits des lesbiennes.
D'accord. Alors, si on refait un point, un retour, un comeback, puisque tu parles de placard, etc., c'est vrai que tu as vécu en Suisse, c'est
absolument, ça ? Absolument, absolument. Je suis née en Suisse.
Tu as un compte en banque.
J'ai un compte en banque en Suisse, bien sûr. Donc, aujourd'hui, dans ces temps-ci, je suis très contente de provoquer, de dire que j'ai un compte en Suisse. Ça marche très, très bien, en fait. C'est la vérité. J'ai un compte en Suisse parce que je suis née en Suisse, donc dans la partie italienne de la Suisse. Et donc, j'ai toujours mon premier compte en banque, voilà, parce que j'ai travaillé aussi en Suisse. Et j'ai décidé de partir. J'ai fait mes études là-bas et je suis arrivée. Donc, je suis partie une première fois en Angleterre pour des études pendant un an. Et ensuite, je suis retournée et j'ai passé une année et demie à Berne, donc qui est la capitale de la Suisse, qui est un endroit absolument très ennuyeux, très chiant. Et c'est peut-être là que ma première conversion s'est faite et j'ai décidé de repartir après à l'étranger.
Et t'es installée à un moment donné en France, quoi.
Je me suis installée en 2000 à Paris, oui.
D'accord. Et donc, quand tu dis ennuyeux, etc., c'est qu'en fin de compte, il ne se passe rien. Et c'est très conservateur, non ?
Voilà, c'est très conservateur. Alors, la Suisse, c'est un pays très bizarre. Moi, je suis partie, bien sûr, à cause de ce conservatorisme, à cause d'un contrôle social qui est très, très présent. Les gens arrivent quasi à fouiller dans ta poubelle pour voir ce que tu fais, ce que tu consommes et avec qui tu vis. Donc ça, c'était quelque chose, bien sûr, qui me dérangeait beaucoup. Mais c'est aussi un pays qui a de la folie, qui est peut-être causée par ce contrôle social très fort. Ceux qui résistent en Suisse sont des personnages absolument fous et très, très, très fascinants. Il y a des écrivains, j'aimerais citer ici Friedrich Dürrenmatt, qui est un écrivain de langue allemande. Et ça a été quelqu'un qui a passé sa vie à écrire des romans et à critiquer la Suisse. Critiquer la Suisse en tant que prison, bien sûr, parce que effectivement avec ce contrôle qui bien sûr forge la tête des gens, mais aussi pour dénoncer la caisse forte suisse qui accueille bien sûr les fonds et les sous de toutes les dictatures du monde encore aujourd'hui.
D'accord. Donc quand tu arrives en France, c'est une forme de liberté et tu arrives en fin de compte très vite, j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, à la lutte contre le sida.
Relativement vite, c'est-à-dire que j'ai fait un passage par une autre case. J'ai travaillé sur la question des entre guillemets violences urbaines, ou plutôt de comment la question de l'insécurité a été instrumentalisée politiquement pour perpétuer notamment une domination de classe, une domination de race, et aussi pour construire des carrières politiques, parce que c'était un peu le sujet de ma thèse que j'ai pas terminée, donc je suis venue pour ça, pour faire une thèse que je n'ai pas terminée. Mais le sujet de ma thèse était justement de comprendre comment cette problématique des violences urbaines est devenue un sujet politique à un moment donné, et comment certains politiques ont utiliser cet enjeu pour monter à Paris, en fait, parce que la plupart de ces personnes étaient des maires de province, des maires députés, des députés-maires, qui ont chevauché cette question pour pouvoir avoir une aura, une identité et bien sûr faire carrière politique.
Donc on utilise les questions de violence urbaine pour faire carrière.
Absolument.
Pour c'était pointer du doigt des minorités.
Absolument. C'était le cas pour des politiques, c'était le cas aussi pour des académiques, pour des universitaires qui ont eu une approche absolument acritique de cette question. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a eu heureusement, et en France, il y a heureusement des chercheurs qui font un très bon boulot et qui dénoncent justement l'envers du décor de cette question. Mais il y a aussi des chercheurs qui ont utilisé cette question d'une façon tout à fait acritique pour devenir maître de conf, voire devenir prof, là aussi dans des universités de province. Et c'était ça aussi que je voulais étudier, c'était le rapport entre la province et la capitale et comment tous ces enjeux de pouvoir se déployaient aussi sur un territoire, en fait.
D'accord. Et en fin de compte, tu arrives à la lutte contre le sida autour de cette réflexion?
J'arrive à la lutte contre le sida, non, justement, plutôt à cause de ma découverte sexuelle.
D'accord,
je pense que ça n'a pas du tout été un cas que je me suis engagée dans la lutte contre le sida à ce moment-là, parce que pour moi, c'était aussi un espace de liberté où l'homosexualité avait bien sûr un rôle prépondérant et donc où je pouvais me sentir moi-même. Donc je pense que c'est plutôt lié à un parcours intime, en fait.
D'accord, c'est un parcours intime. Mais alors, c'est très bizarre parce que je vais citer quelqu'un, c'était Didier Lestrade, qui dénonçait tout le temps les lesbiennes qui ne s'occupaient que d'avoir des enfants ou de se marier, et que toute la lutte contre le sida, ça n'intéressait pas. C'était quand même un grand discours bien rapide, très court.
Alors voilà, très court et très injuste. Voilà. Je dirais très injuste parce que, au contraire, les lesbiennes ont été les alliées des gays, alors qu'elles n'étaient pas touchées directement par la maladie, qu'elles se sont investies, qu'elles n'ont eu aucune visibilité, y compris dans les grandes associations, parce qu'on se souvient de Didier Lestrade et on ne se souvient pas des lesbiennes qui étaient à côté de lui, et ce n'est pas un hasard. Mmh. Certes, Didier Lestrade était un militant, bien sûr, de poigne et qui a fait beaucoup de choses, mais il y avait des militantes ACT-UP, des femmes, qui aujourd'hui sont tombées dans les oubliettes, simplement parce que c'était des femmes, simplement parce que c'était des lesbiennes. Donc j'ai envie de dire, justement, non, elles ne s'occupaient pas de faire des enfants, elles s'occupaient de soutenir, de soigner, d'abord, les gays qui mouraient. J'ai vu récemment un documentaire sur ACT UP New York où on voyait que les gays, les hommes mouraient les uns après les autres, et les femmes étaient là d'abord pour soigner, et finalement se sont retrouvées à avoir un rôle politique aussi parce que les gays n'étaient plus là, en fait, et qu'il y avait de moins en moins de malades qui survivaient, et donc il y a des femmes qui ont pris des fonctions au sein de ACT UP New York. Mais je suis très sceptique sur cette version très partiale que donne Didier Lestrade de l'implication des lesbiennes dans la lutte contre le sida.
En tout cas, ce que tu racontes bien, c'est que le VIH n'est pas du tout pour, en fin de compte, on va dire en termes très précis, pour la communauté homosexuelle, notamment au début des années 80, c'est quelque chose qui est très important comme engagement, puisque c'est la condamnation à mort.
Donc absolument.
On s'organise par rapport à ça. Et toi, tu arrives en quelle année pour
J'arrive en 2005. J'arrive en 2005 dans la lutte contre le sida. Donc, bien sûr, ce n'est plus du tout ces années-là. Il y a eu déjà un énorme tournant dans la lutte contre le sida. C'est même 10 ans après, pratiquement, la découverte des premiers traitements antirétroviraux. En tout cas, des premières combinaisons plutôt d'antirétroviraux qui ont permis aux malades de survivre au départ et puis de vivre, en fait. Donc, effectivement, c'est un engagement peut-être un peu à contre-temps, mais qui m'a quand même donné beaucoup, en fait.
Donc, s'engager dans la lutte contre le sida, c'était aussi de s'affirmer à un moment donné comme lesbienne.
Absolument. Pour moi, c'était le cas, en tout cas.
Et ce que je voulais dire, c'est... cette question de VIH... Pour toi, est-ce qu'elle reste toujours un aspect quand même politique ?
Pour moi, ça reste une question politique, bien sûr, très importante, parce que, je veux dire des banalités, mais parce que ça a trait premièrement à la sexualité, et que ça, encore aujourd'hui, voire plus que jamais, trait à des groupes qui, d'une façon ou d'une autre, sont voire minoritaires, voire stigmatisés. Les homosexuels, bien sûr, les hommes homosexuels, et je pense bien sûr aussi aux migrants aujourd'hui, aux travailleurs du sexe, moins en France, mais beaucoup dans les autres pays, et bien sûr aussi les transgenres, qui est une des catégories les plus touchées par le VIH aujourd'hui, y compris en France.
Donc les transsexuels sont les plus touchés aujourd'hui
C'est-à-dire c'est une toute petite communauté, donc bien sûr, c'est pas un nombre absolu. Mais les trans, dans leur communauté, le nombre de personnes par rapport à la taille de la communauté qui est touchée est bien sûr très élevé. Et notamment les trans M2F.
Et alors, aujourd'hui, il y a eu le SIDAction, visiblement, il y a eu quand même des dons, donc c'est correct. Aujourd'hui, toi, en tant que salarié et au-delà d'être salarié, quelles sont les actualités du sida en France, notamment ? Je pense évidemment à la prévention, notamment par rapport aux homosexuels, qui n'est pas évident. Est-ce que tu peux expliquer ça ? C'est quoi les enjeux aujourd'hui de la lutte contre le sida ? En quelques minutes,
ça je vais peut-être choisir un enjeu qui est effectivement l'enjeu de la prévention par les traitements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les traitements au départ étaient bien sûr pour soigner les malades. Avec le temps, on a découvert qu'en soignant les malades diminuaient ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus qui est dans le sang. Donc les personnes séropositives avaient cette quantité de cette charge virale qui diminuait et si faisant, avaient moins de risques de transmettre la maladie. Donc le traitement a pris un peu un autre reflet. On s'est rendu compte que ça avait un rôle préventif, c'est-à-dire que ça permettait de diminuer la transmission d'une personne malade à une personne pas malade. Aujourd'hui, on en est encore à un autre volet qui est la prévention par traitement. On prend des traitements quand on n'est pas malade, c'est-à-dire quand on est séronégatif, on peut prendre ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, parce que le fait de prendre un traitement avant l'exposition, notamment avant un rapport sexuel avec une personne séropositive, te protège. Donc aujourd'hui, le grand enjeu, c'est ça, c'est-à-dire c'est d'offrir aux homosexuels en France, parce que l'incidence reste malgré tout élevée, c'est-à-dire dans les lieux de consommation sexuelle à Paris, pas que de consommation sexuelle, d'ailleurs de sociabilité, c'est des chiffres quand même qui vont autour de 5-7%, et dans la communauté homosexuelle masculine en général c'est 1%. Ça signifie que un homosexuel sur 100 s'infecte dans l'année, donc c'est beaucoup en fait, c'est des chiffres très élevés.
Le VIH est toujours présent notamment dans la communauté homosexuelle, c'est vrai que dans toute une série de lieux de baise, oui. C'est là qu'on, je veux dire, c'est très facile de devenir séropositif. Absolument. Et c'est vrai que ça, c'est en fin de compte des nouvelles stratégies. Maintenant, depuis quelques années, ça a un peu changé, mais au départ, quand on parlait de santé homosexuelle, de pas que de problématiques, mais comment voir un homosexuel ou la minorité sexuelle, pas que au travers du préservatif, de tout ce qui englobe les choses, était quelque chose de pas acceptable, quoi. C'est-à-dire que si on parlait pas de capote, sans la capote, c'était il y a pas de réflexion.
Oui, les choses ont changé. Les choses changent parce que on a plus d'outils à disposition, parce que la capote reste un outil très utilisé, il faut pas l'oublier, notamment par les homosexuels. Ça reste un outil extrêmement utilisé. C'est-à-dire que deux tiers des je veux pas dire des bêtises, mais il me semble que deux tiers des homosexuels, 60%, autour de 60%, l'ont utilisé au dernier rapport sexuel. C'est beaucoup, en fait. Donc ça reste un outil parmi d'autres.
Et justement, ces traitements préventifs, est-ce qu'ils sont utilisés par beaucoup de gens, alors que justement ils ne sont pas encore atteints par le virus? Est-ce que les gens perçoivent le côté préventif de ce traitement, ou justement il y a un rejet parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à cette problématique-là aussi, forcément, quoi.
Alors il faut pas confondre entre les personnes qui sont séropositives et qui justement prennent les traitements pour se soigner, et du coup ils peuvent se dire, ouais, je ne suis plus infectieux, donc je voilà, donc ça c'est quelque chose, donc ouais, il y a une négociation qui peut s'instaurer avec le ou les partenaires ou la partenaire sexuelle. Et les traitements dont j'ai parlé, donc ces traitements où on prend des traitements quand on n'est pas malade, ouais, là c'est des traitements encore, on va dire, en phase d'expérimentation, c'est-à-dire il y a un grand essai aujourd'hui en France auprès des gays qui s'appelle Hyper Gay, et qui vise justement à voir si ces traitements pris avant, pendant les rapports sexuels permettent de diminuer le nombre d'infections. Donc, c'est pas du tout quelque chose qu'aujourd'hui on peut aller à la pharmacie acheter. On en est encore dans un cadre de recherche extrêmement encadré, extrêmement voilà, il faut répondre à certains critères pour être inclus. Et si on est inclus, on a un suivi très particulier.
Mais quand même, le bémol à ça, c'est que en fin de compte, j'ai l'impression de ce que j'en connais. Que le ministère de la Santé, etc., n'est pas très favorable à ce truc-là. Il veut bien faire des essais, mais donner des médicaments à des homosexuels pour s'envoyer en l'air et pour pas qu'ils deviennent séropositifs, c'est une notion qui reste...
De toute façon, on va dire que la sexualité homosexuelle a toujours fait et continue à faire l'objet d'enjeux de moralisation. Donc, que ce soit via la capote, que ce soit via le traitement, que ce soit via une image toujours d'une sexualité débridée, une sexualité très sans contrôle qui est liée aux homosexuels, cette moralisation, en tout cas cette envie d'attacher des questions morales à la sexualité gay, elle n'est pas nouvelle et elle perdure aujourd'hui, bien sûr.
En fin de compte, ce que tu décris là, sur cette question-là, c'est la construction de l'image du monstre. Oui. Il y a différentes terreurs. L'étranger est une terreur, hein, celui qui se mélange n'importe où. Et la sexualité, par définition, et le rapport au corps, le rapport à la prostitution, le rapport à tout ça, c'est quelque chose de sale, et le monstre, c'est pointé du doigt et c'est discriminé, quoi.
Absolument, toute sexualité qui n'est pas hétéronormée, qui va pas dans le sens de la reproduction monogame, etc., de toute façon est dépeinte comme quelque chose de monstrueux, évidemment. Donc que ce soit la sexualité tarifée, que ce soit la sexualité multipartenaire, que ce soit la sexualité homosexuelle, voilà, c'est encore une fois, c'est pas nouveau, et malheureusement c'est pas avec la gauche au pouvoir qu'on assistera à un changement de ce point de vue là parce que c'est des questions qui au contraire sont moralisé aussi par la gauche. Et c'est ça qui est un peu dur à accepter quand on est militant de la lutte contre le sida.
D'accord. Alors peut-être qu'on va faire une petite pause musicale et souffler un peu et puis revenir avec Véronica pour parler de plein de choses et notamment son engagement. Et merci encore.
Merci à vous.
Show y'all what it's about. How much you got? Don't make me throw no gun in your mouth. No?
How long is your cream? This long?
And yo, his belt got carrots in it. Swift description, E320 nigga pitching. Rock a raw dinosaur chain, hang to his thing. It's like he pump isolated, still cashing in cream. Niggas in the hood hate him. Drew a vase of him, blaze him. Me acting like Shalar raising him. This is hydrogen, sun ain't live as him. He like MacGyver and the chin, four spies with him. Roll relentless, desert that he hold is a gift wish. Smash the list, give his mystic technique. Operation tech screen, about the bed cream, the Malik. Gators jet like a fast swing, nigga like Nicolas Cage with the gauge in your braids. Two cannons that'll spray, rockin' banana suede. Suck this drunk alcohol dick. Fuck y'all niggas with hits. We bout to shit on y'all shit.
Y'all jokers wanna call us out, name names. Otherwise, it'd be wise to shut the fuck up. Get pimp slapped up, jacked up and mapped up. You're scared and froze of being exposed. I own Harlem, I bum Harlem. Call me the mayor, it's my borough. You don't want no problems. I'm on now, you dead pop. All jokes aside, I ride the top, you glide the bottom. Pitfalls, 5'9" with thick balls. Shit, y'all, leave flat lines and stiff jaws. Huh. We flip off basic, embrace it. 8 kills, 47 ways to taste it. Never understand what you never been told. You did your book biting off of my scrolls. We hitman Columbo coats and hats to match. Bust off quick and then guns go back.
Hey, yo, I move like Arthur Ashe against God. 4 rackets, 8 balls, and no practice. Every cipher's a heated discussion. The industry was like a beat that needed percussion, and I brung the music. Shit that made crews flip. Y'all might say that I'm the illest. This is QU shit. I used to hee-ho. Now I'm taking over like the repo. No bitches that roll CeeLo that'll sniff a kilo. We went from Franks and Beans to Shanks and Greens. Now we drive our Navigators to Banks and Queens. Y'all can't fuck around.
Your words ain't right. Every time I touch the mic, they say, Perb ain't right. But that's the truth, though. In fact, that's it. When they drop his shit, I'm gonna cop that shit. It's the new star. You want me? I'm at the juice bar. That one sack, niggas. Give me two stars.
Yo, I hear what y'all rapping about, but bring your stash out. You shouldn't throw rocks if you live in a glass house. Sneaking weak shit at us. On the low, though. Where these cats come from? Speaking about Poe, we got cash to cop it and crash it. Well, half of y'all cats just catching up the Ray last shit. Got guns in the jungle, call them Jurassic. The chrome, the steel, the 22 shot plastic. While y'all niggas cop jars, me and my niggas cop bars. Getting head from rock stars. We blowing everything apart and smashing the charts. How I see it?
Hey yo, what you wanna be when you grow up? Yo, I wanna be a leader. Slow your speed up and stop trying to beat her. Say something always. Got a future, stay out the hallways and get yourself right. 100 more ways.
Fly like iceberg, nice with verbs, precise words. Bentley swerve, hit the curb, jump out, cock back, spit out. Shut your block down, get out. Criminal route, gangster shit, can't talk now. Gun in your mouth, cream team killers, cocoon cats like caterpillars, giant size gorillas, break niggas backs for the thriller. Scratch, green back trap, fat reserve, that's my word. Disrespect record, get what you deserve. Inferno, meltdown mics, millionaire in my afterlife. Broke bread with Christ on the last night. Apocalypse, sleep with 4/5, 2 clips, passport, cell phone with a removable microchip. Specialist, 40 carat Sicilian necklace, matching bracelet, cream team, crisp and basic.
Vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3 FM. Je vous rappelle les quelques adresses utiles qu'on a. Vous pouvez nous joindre, nous contacter, nous voir sur internet. C'est le www.aufondprèsduradiateur.fr pour télécharger cette émission si vous la prenez de court, que vous avez envie de réécouter le début et toutes celles d'avant. Je crois qu'on a les archives jusqu'à 2008 hein, presque sur notre site. Donc allez-y franchement. Et puis on a une adresse mail si vous voulez nous aider à construire cette émission, nous envoyer des infos, des contre-infos, des communiqués, des critiques, des sons. Tout ce que vous voulez, c'est au fond près du radiateur @no-log.org. Et puis bah, nous, on va revenir dans le vif de notre rubrique Mauvais Genre. Et bah, on était en train de discuter de pas mal de choses avec Véronica. Peut-être qu'on peut, on peut reprendre.
Donc on va revenir sur un point que tu as fini par la remoralisation de la gauche. Mmh. Tu peux expliquer par des exemples précis.
Je pense notamment à la prostitution.
Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui au pouvoir, on n'a pas du tout une gauche libertaire. Bon, c'est pas très étonnant. Mais en fait, si c'est vrai que c'est Sarkozy qui a voté l'OPCI, je crois que ça s'appelle la nouvelle loi sur la sécurité intérieure, qui prévoyait justement la pénalisation du racolage passif, notamment racolage tout court. Racolage passif. La gauche aujourd'hui effectivement dépénalise cette mesure, mais par ailleurs tient un discours d'abolitionnisme de la prostitution qui est très fort et sur lequel j'ai l'impression que la gauche majoritaire se retrouve. Donc moi bien sûr je suis déçu.
Voilà. Et c'est vrai que peut-être qu'il y aura un projet de loi pour pénaliser cette fois-ci le client.
Ouais.
Et on s'attend à ça.
Ouais.
Donc c'est un cadre assez répressif en fin de compte et c'est assez dramatique.
Oui, et puis tu parlais du monstre, de la création des monstres. Oui, je crois qu'aujourd'hui on fait des personnes prostituées des monstres, des espèces de monstres ultimes, voire des clients de prostituées des monstres ultimes. Premièrement, passant sous silence le fait que la sexualité est quasi toujours tarifée, je veux dire, dans les mariages. Qu'est-ce que c'est le mariage si ce n'est pas de la sexualité tarifée, surtout quand l'une des deux personnes, notamment la femme, ne travaille pas. C'est de la sexualité tarifée. Se croire au-dessus du rôle de l'argent dans la sexualité, je pense que c'est vraiment perdre de vue l'essentiel. Ma compagne est au RSA. Bien sûr, la question de l'argent, elle est là. Elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste chez la prostituée et son client avec les 50 euros de la pipe. Non, c'est pas ça. L'argent, bien sûr, structure aussi les rapports sexuels et les rapports, voire les rapports affectifs, les rapports d'amour. Il faut pas avoir peur de ça. ça. Je pense qu'il faut affronter ça et voir la réalité en face. Et puis, bien sûr, faire en sorte de travailler avec cette contrainte qui est la contrainte marchande, qui est là et avec laquelle nous devons composer, en fait.
Alors, dans ce cadre-là, tu as essayé aussi de regrouper un peu des gens, et notamment des lesbiennes. Là, on saute, mais en plus, c'est le lien, en fin de compte. C'est qu'est-ce qui fait que... en dehors de notre travail, de d'autres réalités, qu'est-ce qui fait que on s'affirme? Alors il y a la lutte contre le sida, mais toi t'as fait une équipe de football, et donc tu peux nous raconter un peu ce parcours aussi, parce que je trouve que ça éclaire aussi cette idée de solidarité, hein. Il y a différents types de solidarité, et dans la communauté lesbienne, t'as essayé de créer avec d'autres cette équipe de football. Et tu peux nous expliquer
donc
ça.
Pour rendre justice à la fondatrice du club, c'est effectivement c'est Cécile, donc ma compagne, qui a eu l'idée de fonder cette équipe de foot, de réunir des copines, des lesbiennes autour du ballon rond. Et c'est justement en se réunissant pour faire du sport que le projet de notre équipe, qui est devenue une association qui s'appelle Les Dégommeuses, a pris forme. Parce que premièrement, notre équipe est devenue un peu un lieu refuge qui a attiré de plus en plus de lesbiennes, notamment des jeunes lesbiennes. Qui avaient envie de ne pas être jugées, qui avaient envie de ne pas être jugées, notamment quand leur apparence transgressait un petit peu la norme des genres, quand elles étaient, pour être très claires et très simples, d'apparence plus masculine que la moyenne. Donc elles avaient envie de ne pas être jugées par rapport à ça, parce qu'on a malheureusement des échos et des témoignages de femmes qui se sont fait dénigrer à cause de ça dans des équipes, notamment de football, notamment quand elles étaient enfants et qu'elles jouaient avec d'autres gosses, donc c'était des équipes mixtes. Donc les Dégommeuses, c'était un lieu refuge, mais à peu c'est devenu aussi un lieu de premièrement de mixité sociale et raciale, et aussi un lieu de solidarité internationale, parce que, et ça encore c'était l'idée de Cécile, on a voulu inviter une équipe de foot issue d'un township de Durban qui s'appelle le Tokozani Football Club. Donc c'est une équipe formée par des lesbiennes qui jouent et qui s'entraînent.
Ça rigole pas, hein.
Et ça rigole pas, et elles sont très bonnes, elles sont très bonnes sur le terrain. Et voilà, la petite histoire, c'est que Cécile avait connu l'existence, avait su de l'existence de cette équipe via Zanele Mioli. Donc Zanele Mioli, c'est une photographe sud-africaine, lesbienne, qui travaille justement sur les questions de visibilité des lesbiennes noires en Afrique du Sud, et qui a fondé une première équipe au Cap qui s'appelle Chosen Few, et une deuxième équipe à Durban qui s'appelle le Tokozani Football Club. Et le Tokozani Football Club n'était jamais sorti de son bled, hein, de son township. Donc on a invité 14 personnes. Pour la plupart, c'était la première fois qu'elles sortaient non seulement d'Afrique du Sud, mais de leur région. On a fait les passeports, etc. Et elles sont venues en juin 2012, où a lieu donc une semaine entière d'action de lutte contre la lesbophobie.
Vous avez aussi essayé de... À la fois, c'était une rencontre... C'était quel lieu, là ?
Alors, on était au Parc des Princes.
Ouais.
Alors là aussi, j'ai une petite anecdote très drôle, parce que le Parc des Princes est bien sûr réservé aux mecs. Hein, donc, c'est-à-dire que l'équipe féminine du PSG ne peut pas fouler la pelouse du Parc des Princes, parce que bien sûr les filles pourraient quand même détruire la pelouse, et il faut pas que Ibra et compagnie puissent être dérangés par la présence de femmes sur le terrain. J'exagère, mais à peine, parce que c'est vrai, le PSG féminin ne joue pas au Parc des Princes. Nous, on a eu la possibilité de jouer via le Paris Foot Gay, qui organise chaque année un tournoi au Parc des Princes. Donc on a eu la chance de jouer au Parc des Princes avec le Tokozani Football Club et les Dégommeuses.
Et alors, vous avez aussi cherché à être en tête de la Gay Pride, et ce n'était pas évident.
Non, ce n'était pas évident. Pour être juste, il faut dire que l'intérêt LGBT nous a donné quand même 1 500 €, donc on ne va pas non plus cracher dans la soupe, donc ils nous ont quand même soutenus. Mais c'est vrai que ce n'était pas simple de mettre... la solidarité internationale et des lesbiennes en tête de cortège. On s'est imposé quand même, on l'a fait quand même.
Ouais.
Mais c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Parce que tout le monde était pris par les questions de l'égalité, du mariage, etc. Et la solidarité internationale est passée, bien sûr, au deuxième plan.
Alors, quand tu parles de solidarité internationale, tu as rencontré Zanele. Tu as vu son travail, tu as rencontré, ils étaient quand même, moi j'ai vu, certaines avaient 18 ou 19 ans, comme jeunes lesbiennes, black, africaines, sud-africaines. On avait parlé, on a fait une interview d'elle, deux années l'année, elle parlait de viol correctif.
Absolument.
Et qu'est-ce que, dans les dialogues que tu as eus avec ces jeunes, jeunes filles, je sais pas, c'est un côté un peu paternaliste, mais avec ces personnes, qu'est-ce qu'elles te disaient? Parce qu'il y avait certaines qui voulaient, j'avais l'impression qu'ils voulaient rester en France, parce que c'était pas évident.
Non, c'était pas évident. Alors, il faut savoir effectivement que les lesbiennes dans les townships, les lesbiennes noires, sont très exposées au viol. Il faut dire que malheureusement, les femmes tout court en Afrique du Sud sont très exposées au viol. Et les lesbiennes sont exposées, comme tu disais, à ce qu'on appelle des viols correctifs. C'est-à-dire, au fond, on te viole pour corriger ton orientation sexuelle. Parce que c'est pas possible que tu sois une lesbienne. Avec ma bite, je vais te faire voir que finalement, tu es une femme comme une autre et que tu aimes la bite, en fait. Je suis un peu vulgaire, mais je pense que le concept est un peu celui-là. Donc, Zanele a fait tout un travail autour de la communauté lesbienne pour dénoncer, bien sûr, la réalité de viol correctif, mais pas seulement, pour donner une autre image de cette communauté et de ces femmes. Et c'était ça aussi qui nous a vraiment beaucoup plu dans la démarche de Zanele et qui était un petit peu au départ de notre projet, c'était de ne pas faire de ces femmes des victimes ou des victimes impuissantes, mais des joueuses de foot, voire des gagnantes sur le terrain. Ça, c'était pour le côté Foot for Love, pour le côté de notre projet. Et pour ce qui est de Zanele, c'est de... Effectivement, elle a dit d'ailleurs en juin passé, quand elle est venue ici, elle dit « Quelle est la représentation que nous avons des lesbiennes noires en Afrique du Sud ?» C'est des photos passeports qu'on voit dans les journaux quand une lesbienne a été assassinée. Voilà, moi je vais donner une autre image. Et donc elle fait notamment un de ses projets qui s'appelle Faces and Faces, c'est-à-dire visage et phase, où elle photographie en noir et blanc dans une taille assez grande, ça doit être 1 mètre x 80 cm, quelque chose comme ça, voire 1 mètre x 1 mètre. Elle fait des portraits de ces femmes qui te regardent dans les yeux, c'est-à-dire qui commencent à exister par ce regard, qui sont bien sûr magnifiques et très belles. Et aussi, elle déjoue aussi un petit peu le côté, c'est-à-dire, c'est sur le fil, parce qu'elles sont tellement belles, ces femmes, elles sont tellement belles, ces photos, que le danger, un petit peu, c'est que ça devienne quasi un peu esthétisant. Mais justement, donc, elle joue sur ce fil, parce qu'elle nous renvoie aussi à notre propre regard, justement, comme tu dis, un peu exotisant, un peu paternaliste. Et tout son travail, c'est ça aussi, c'est-à-dire... Ces femmes te regardent dans les yeux, elles sont là, à la fois elles te rappellent leur réalité, et à la fois elles disent aussi qui tu es, en fait.
C'est très émouvant quand tu parles de ça. Et moi, je vais te réinverser le truc. Moi, ce que j'en ai compris aussi de son travail, c'est de donner du pouvoir, et c'est ce que tu décris, à ces femmes. Il y a certaines qui même ont commencé à prendre l'appareil photo. Elle a toute une démarche de communiquer, de dialoguer avec elles. Elle manipule pas les gens, elle est dans l'honnêteté, elle connaît leur réalité, elle vient de cette réalité-là. Absolument. Et elle met en scène, il y a un rapport à l'image ou au rapport au pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir dans le sens où j'existe et je suis pas manipulé. Je peux moi aussi prendre l'appareil photo et faire les photos. Et je trouve que ça, c'est aussi quelque chose d'assez fort. Comme, ça, c'est un aspect très militant aussi, que je trouvais vachement intéressant. Maintenant, j'ai une question, puisque tu parlais de l'Afrique du Sud, de cette image, de cette communauté, en fin de compte, qui existe parce qu'il y a ce travail de Zanele, etc. C'est vrai qu'à l'inverse, c'est ce que je posais comme question un peu, les communautés migrantes, le mélange de minorités sexuelles et minorités dans la minorité, c'est-à-dire arabes notamment et nord et africains. C'est vrai que ici, quelle image on pourrait avoir du rebeu PD? Pas grand-chose à part la une de Tétu, et c'est une vraie question en tout cas qui est posée.
C'est une vraie question, et c'est vrai que c'est une question qui nous fait réfléchir aussi au sein des dégommeuses, parce que bien sûr, du moment où on se pose la question pour l'Afrique du Sud, il faut quand même commencer à se la poser en France. Et c'est vrai que grâce à ce projet, on a attiré des femmes noires, des lesbiennes noires qui sont venues jouer avec nous. Et ça, c'est quand même une réussite. Et on essaye aussi de... Comment dire, de ne pas rester dans le non-dit, c'est-à-dire de verbaliser ces questions de pouvoir, ces questions de race, Ce n'est pas facile parce que bien sûr on est gêné, parce qu'en plus on commence, après on est potes, on joue ensemble, mais on essaie quand même de faire cet exercice, c'est-à-dire de verbaliser, de dire qu'on aimerait plus de noirs dans notre conseil d'administration, qu'on aimerait, c'est difficile en France, c'est des tabous en France de le dire. On a bossé pour foot, moi bien sûr, en sachant qu'en plus on est, c'est des blanches qui ont été à l'initiative, donc il y a tout ça qui est en jeu. Mais je trouve que c'est très intéressant. Et par ailleurs, il y a un peu un autre chantier qui se met en place là dernièrement, grâce aussi à Food for Love toujours. On est rentré en contact avec un réseau informel qui s'appelle Lesbiennes dépassent les frontières, qui est un réseau qui, en fait, aide des demandeuses d'asile, des lesbiennes qui demandent l'asile, à faire les démarches, bien sûr pour avoir des papiers, mais plus largement pour pouvoir trouver un logement, pour avoir des sous. Donc il y a un vrai, il y a des tontines, il y a des, bon bref, il y a un vrai réseau de solidarité. Et donc il y a des lesbiennes sans papiers ou réfugiées qui jouent avec nous aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, un de mes rêves, ce serait de faire un grand tournoi européen où des lesbiennes ougandaises, mauritaniennes, etc. Jouent. Réfugiés en Angleterre, en France, en Belgique, etc., qui est un grand tournoi pour donner la visibilité aussi à ces femmes-là qui sont dans une situation vraiment difficile et qui sont absentes de la Gay Pride, qui sont absentes de Tétu, qui sont absentes de tout le discours sur les LGBT aujourd'hui.
D'accord. On va peut-être faire une petite pause, un peu de musique, et on revient, voilà, pour la troisième partie qui est l'actualité, là, direct. Mais tout découle, en fin de compte, de... Moi, je trouve de ce que tu dis, tout découle et, de comment on arrive à cette horreur et comment, quelle est une autre perspective, une autre humanité, voilà.
Tutta qua la rutolo, ma che cazzo è quello che mi pare? Siete con questo microfono, sti pazzi, mi sta via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, a fatica, Marino, sì, se fa fatica, mannaggia, capatore, mannaggia.
Le baby napolitain fana, oui, j'ai bouffé du poulpe pendant 20 ans, comme Antonio Montana. Pour moi, tous les Français étaient de la sorte, mais que savais-je de la vie enfermée derrière une porte? Quelque chose dans le sang parle tout bas. À Paris, je suis perdu, en Sicile, je suis chez moi. La Méditerranée chante dans mes paroles qui s'envolent. Je me rappelle à l'école, je voulais être différent, original dans le vent. Ça criait l'Amérique dans tous mes vêtements. Interloquer les ignorants, glousser comme des idiots. Ok, j'ai laissé passer les rires. J'ai flippé, puis pardonné, car j'aime mon peuple en mourir. Je fais l'américain, c'est un fait, mais qui se la joue français et pèse les pieds du petit maigret. Je hais ces types aux origines truquées. Que Dieu fasse miséricorde à la mémoire étriquée. Si tu n'es pas de ma famille et que ton crâne sonne creux, chante-moi tant que tu veux.
Tu veux voir l'americano, americano, americano.
Tu veux faire l'américain.
Tu veux voir l'americano, americano.
J'étais fasciné par le pays, des buildings, des taxis jaunes et sing sing, des filles à maillot bronzé sur la plage, des limousines, des méchants indiens, des policiers qui gagnent toujours à la fin. Moi qui voulais devenir flic à New York, paye désormais les affres d'être une crapule à Marseille. La télé faisait tout pour que mon songe vive. Je me nommais Philippe et rêvais de ma peau jusqu'au jour où j'ai pris l'avion en 84. Et tout a changé dans ma tête, ce fut une belle claque. En fait, très vite, j'ai eu une honte terrible pour des 4 millions d'indiens d'Amérique. J'étais mon casque de baseball qui faisait rigoler mes amis à l'école. Et pourtant, ils étaient aussi tous des petits ritals. Pourquoi ils voulaient danser le disco comme John Travolta? Le rêve américain ruine. J'irai poser des fleurs sur la tombe de Pépé Joseph à Brooklyn. S'il m'avait vu à 15 ans, il aurait sûrement dit avec son accent.
Tu veux voir l'americano, americano, americano.
Tu veux faire l'américain.
Tu veux voir l'americano, americano.
Je peux en parler puisque j'en viens de toutes ces choses étranges qui font rire les anciens.
Le moqueries qui redoublaient pour que je craque.
Fili che gazze fatte, na te strada in gopo gopo.
J'avais un trait dans ma coupe et c'était cool. Ils appelaient ça une autoroute et pour eux j'étais fou. Mon blouson starter qui valait tant de thunes. À leurs yeux était une veste pour marcher sur la lune. Mon style, ma vie,
que cosa strana.
C'est un drame.
Tout pauvre l'américaine.
Je suis né dans cette génération moderne où I love you est plus facile à dire que je t'aime. Mais les vieux ont gardé cette antipathie depuis que les soldats américains ont débarqué. Quand leurs filles tombèrent amoureuses des yeux bleus et que ces hommes achetaient leur nuit avec un chewing-gum. Alors quand on me taquine, je souris. Et si je ne suis pas d'accord, je respecte et je me tais. Je ne m'étonne plus quand mon peuple vit de passion. Tant est vrai cette chanson.
Tu peux faire l'américain, américain, américain.
Tu peux faire l'américain.
Tu peux faire l'américain, américain, américain. Tu peux faire l'américain, américain, américain.
Tu peux faire l'américain.
Tu peux faire l'américain, américain, américain.
Bye 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 bye.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Au fond près du radiateur. Et donc on continue notre entretien avec Véronica. Et donc je sais pas, Mouloud, tu voulais plus aborder voilà, la question de l'actualité, de ce qui se passe maintenant.
Ce que tu as décrit en fin de compte, c'est aussi ce possible rencontre solidaire avec ces questions de race, de classe, etc., qui sont une vraie question aujourd'hui. Et débarque comme un cheveu sur la soupe, ou non, mais carrément, où une personne s'appelle Brigitte Bardot, Brigitte Fargeau.
Brigitte Bardot.
Voilà, Brigitte Bardot.
Et ouais. Avec toutes ces manifestations depuis pratiquement 6 mois, et où à la fin, on peut entendre la France aux Français, ça renvoie à Christine Moutin, les homosexuels à la Seine, comme les Arabes, ou à mort les homosexuels. Donc, comment est née cette idée de ce collectif? Et je sais que moi, les premières manifs, j'étais avec toi, on ne savait pas où on devait aller. Voilà, on était sous le choc. Et je ne veux pas faire juste l'intervieweur, mais il y a une réalité, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui appelaient au meurtre. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, des homosexuels, au point où j'avais l'impression qu'on faisait un référendum. Et donc moi, j'aimerais que tu parles un peu de cette initiative. Et qu'est-ce que ça on a vu qu'il y avait un char, qu'il y avait des gens qui essayaient de faire des contre-manifs. Donc explique-nous ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que vous avez essayé de faire.
En fait, c'est une amie qui s'appelle Yuri, en tout cas c'est son nom de scène, je dirais, qui a appelé un petit groupe autour d'elle de lesbiennes. Parce que en lisant simplement des journaux, elle était coincée dans une salle d'attente. Elle a commencé à lire les journaux et elle s'est rendue compte que les journaux étaient remplis en fait de propos homophobes et que c'était vraiment insupportable, qu'il fallait réagir. Donc on s'est réunis et le collectif Oui 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 est né comme ça, c'est-à-dire de quelque chose d'une espèce de colère et c'était quelque chose d'immédiat, c'est-à-dire ça s'est structuré sans trop se structurer parce que c'est resté quelque chose d'assez magmatique. Ouais. Mais très rapidement, il y a beaucoup de gens qui sont venus et chacun a fait sa proposition, c'est-à-dire qui voulait faire un char, donc voilà, qui voulait faire une manif, voilà, ouais. Qui voulait faire une action dont la ville voilà, l'organisait. Donc ça s'est fait un peu sur le principe qui le dit le fait, sans trop de loi, mais c'était vraiment quelque chose de libérateur parce qu'on avait l'impression de pouvoir exprimer notre résistance et notre colère sur plusieurs fronts, en fait. C'est comme ça que c'est né.
Il fallait tenir et se dire, merde, il y a quelques années, il y avait le débat sur le PACS où il n'y avait pas grand-chose qui s'était fait. Et déjà, il y avait beaucoup de mobilisation. Moi, ce que je me souviens, c'est que je t'ai rencontré avec à peine une centaine dans l'une des premières manifestations contre le mariage. Et c'était, je crois, l'UMP.
Ouais. Et c'était Alliance Vita en novembre, voilà. En fait.
Et ce qui s'était passé, c'est que moi et mon compagnon, on s'était baladés dans cette manif. Et au bout de 10 minutes, on s'est dit, mais on n'est pas de la même humanité. Et ça faisait froid dans le dos.
Bah, c'est-à-dire que très clairement, il faut regarder la réalité en face. Qui y a dans ces manifestations ? Il y a des cathos conservateurs relativement friqués, c'est-à-dire c'est pas des prolos, c'est des cathos pour la plupart, voire c'est parfois des prêtres. J'ai jamais vu autant de prêtres que dans ces manifestations. Donc voilà, c'est pour ça on n'habite pas le même espace, c'est-à-dire eux ils habitent dans le 16e ou dans des villas de province, et nous on habite à Paris dans des quartiers plus ou moins populaires. Donc voilà, c'est pour ça on n'est pas du même monde. Et pourtant, ils ont occupé la ville. C'est ça qui était violent, c'est de les voir occuper la ville. Et ils étaient très nombreux.
Très, très nombreux.
Et ils sont restés toujours à chaque manifestation très, très, très nombreux. Donc nous, on était une petite, un petit vaisseau dans cette mer humaine de catho-réac, là. Et on a essayé, du coup, d'agir un peu rusé. Parce que, bien sûr, on était beaucoup moins nombreux et surtout avec beaucoup moins de moyens. C'est-à-dire que derrière Frigide Fardeau, ou je ne sais plus comment l'appeler, bien sûr, il y a beaucoup d'argent. Il fallait voir à la manifestation du mois de janvier le nombre de haut-parleurs géants. C'est-à-dire c'est la scène, c'est des choses qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Et nous, on avait quelques milliers d'euros récoltés sur des sites de financement communautaire en ligne, quoi. Donc c'était vraiment un peu David contre Goliath, en fait.
Et l'une des dernières fois, on m'a dit que ça a été chaud pour vous.
Oui, la dernière.
Tu peux nous décrire ça.
Alors, la dernière manifestation organisée, c'était la manifestation à l'avenue de la Grande Armée. Et c'est là que le vernis a commencé un petit peu à craquer, le vernis de la manif pour tous. C'est-à-dire que la vraie nature extrêmement homophobe, extrêmement réactionnaire, voire fascisante, est sortie. Là où on a entendu le peuple de la Grande Armée va gagner. Là, on a entendu. La France aux Français, comme tu disais, le printemps français, voilà. Donc ces slogans nationalistes et fascisants ont été très clairement portés pendant cette manifestation. Et nous, on était très peu, on était une quinzaine, mais finalement, ils étaient, eux, tellement nombreux et tellement organisés qu'ils nous ont un peu dispersés au début. Donc on s'est retrouvés à cinq avec une banderole qui s'appelle Égalité, l'égalité vaincra. Et à un moment donné, on a réussi à aller sous la scène, là où il y avait les élus, parce qu'il y avait beaucoup d'élus, en fait. Et on a déployé cette banderole. On a commencé à crier simplement égalité. Et je peux vous dire que le service d'ordre nous a dégagés de façon assez violente. Moi, je me suis fait prendre par la gorge. Et ils nous ont vraiment délogés. Bon, le truc drôle, c'est que cette vidéo, après il y a une vidéo qui a circulé sur des sites d'extrême droite qui a dit les fémènes sont arrivées les fémènes sont arrivées à la manifestation et ils n'ont même pas eu le temps d'enlever leur soutif, en fait, voilà, comme quoi les fantasmes, c'était les fantasmes.
Mais c'est vrai que se retrouver moi j'étais aussi une fois dans le métro et se retrouver avec tant de gens comme ça. J'avais dit à Vincent, de toute manière, ça, c'est un point de repérage et il y aura du monde. Mais je ne pensais pas que jusqu'au mois de février, jusqu'au mois d'avril, il y aurait à ce point-là. Et ça, c'est quelque chose d'assez clivant parce qu'on a vraiment l'impression, moi, cette impression au bout de 6 mois, 7 mois, qu'on est entre les affaires et cette question-là qui est centrale. Parce qu'il ne s'agit pas du mariage, il s'agit bien du sujet homosexuel, de minorité sexuelle. On a carrément dépassé le sujet. C'est bien de ça qu'on parle.
C'est absolument de ça dont on parle. Ils ont déjà appelé à une manifestation au mois de mai. Et moi, j'ai envie de dire comment organiser la résistance. Et je voudrais reparler du nom de ce collectif informel. C'est Oui, Oui, Oui. Et c'est donc Elisabeth Lebovici, qui est une critique d'art et qui est une lesbienne et qui est aussi dans ce collectif, qui est militée ACT UP pendant longtemps, qui a refait un peu l'histoire a posteriori. Pourquoi ce collectif s'appelle comme ça? Bon, l'explication de base, c'est que c'était les trois oui: oui au mariage, oui à l'adoption, oui à la PMA. En fait, et je trouve que son analyse est très bonne, c'était aussi notre réaction ironique face au fait que ces personnes, ces fascistes, nous avaient volé notre nom. C'est-à-dire, nous sommes le peuple du non. Nous sommes ceux qui disent non, on vous emmerde, etc. Et eux, ils se mettaient à dire non. Alors nous, on a dit, on commence à dire oui. Et ce oui, 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 donc on a retourné un petit peu ce oui. pour une fois, et on en a fait un truc assez drôle, c'est-à-dire qu'on a, organisé partout dans Paris ce qu'on appelait des cris. Donc on se mettait à plusieurs à commencer à oui, 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 etc., dans un crescendo orgasmique. Donc voilà, c'était aussi montrer avec de l'ironie et du plaisir aux Antilles qu'on était plus fort qu'eux malgré tout, en fait, malgré le fait que malheureusement ils sont beaucoup plus nombreux que nous.
Il y a une chose, c'est vrai que quand à chaque fois je suis venu sur le char ou d'autre chose, c'est vrai que c'était très plaisant d'être là. Il faut quand même souligner que l'inter-LGBT et tout ce qui est autour du Parti Socialiste ne voulait surtout pas faire de contre-manifestations et surtout pas être présent quand ces bandes de porcs manifestaient. C'est un truc, il faut faire des manifs bien droites, bien gentilles, etc. Et je pense que c'est aussi la spécificité de ce collectif Oui, 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 c'est que vous avez été, comme d'autres, vous avez essayé d'affronter ces gens-là avec vos armes. Et je crois que ça, c'est important de le souligner. Et il y a une chose qui, en tout cas, dans toute l'interview, moi, je vois une chose, c'est effectivement, c'est une contradiction d'être à la fois pour le mariage, et qui est quand même très normatif, et à la fois se dire, ben, je veux autre chose comme désir. Mais est-ce qu'en fin de compte, il est très difficile d'entendre une critique intéressante du mariage, tout simplement parce qu'on a enfin... parce que le sujet n'est pas le mariage, le sujet c'est les minorités sexuelles. Est-ce qu'elles ont le droit d'être physiquement quelque part ?
Absolument. Je pense que pour ceux qui et celles qui ne l'ont pas lu, je pense qu'il faut lire l'article qui est paru il y a quelque temps, je ne sais plus où d'ailleurs, de Virginie Despentes, où elle explique pourquoi, bien sûr, elle était contre le mariage, mais elle était à fond dans ce combat. Et je pense que c'est la plupart des nanas et des mecs, surtout des nanas, parce que le collectif Oui, Oui, Oui est formé à 80% par des lesbiennes, n'ont aucune intention de se marier. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont, voient le mariage comme la fumée dans les yeux. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. La question, c'est une question, effectivement, d'existence et d'égalité, bien sûr. Après, moi, je l'ai dit, je pense que je l'ai déjà dit à ton micro,
oui, absolument.
Et je vais le redire. Je pense à un slogan des Durs à Cuire, qui est donc ce collectif de Nantes qui est venu à la manifestation pro-mariage, qui disait « On veut le droit au veuvage, à l'héritage, à la pension alimentaire ». Bon, et je pense que c'est très important, ce n'est pas rien, je veux dire, le mariage, c'est une institution, certes, bourgeoise, certes, tout ce qu'on veut, mais c'est une institution qui protège, en fait, c'est-à-dire que si on se paxe, une des deux personnes peut partir du jour au lendemain et casser le pax sans devoir rien à l'autre personne. Alors que le mariage, si tu pars, oui, tu dois la pension alimentaire. Et le mariage a été créé parce que les femmes ne travaillaient pas, en fait, et qu'il fallait quand même donner un cadre protecteur à la femme qui, notamment, élevait les enfants. Donc, bien sûr, c'était une forme d'ordre public qui s'instituait, mais quelque part, encore une fois, dans des couples où il y a un des deux ou une des deux qui est dans une situation financière précaire, oui, le mariage et protecteur, parce que si l'autre se casse, ben, tu dois la pension alimentaire. Finalement, c'est pas si mal que ça, en fait.
D'accord. Et moi, tu disais une chose à un moment donné, lors d'une interview, que les homos se bougent pas beaucoup le cul et que, de toute manière, c'est eux qui vont avoir le droit au mariage, ils vont se marier, entre guillemets. Et en fin de compte, il y a une forme de normalisation pour certains de l'homosexualité. Et ça reflète aussi un virage aussi à droite de ce qu'on peut appeler communauté.
Oui, bien sûr, quand nous, on a tracté dans le marais, parfois on avait un peu les boules, parce que tu avais le couple de mecs avec toute la panoplie de petits chiens avec couverture Louis Vuitton, petite coupe comme il faut, petit débardeur comme il faut, etc. Et ils disaient, nous ne sommes pas concernés. Or, à la fin de l'histoire, eux, ils vont certainement se marier, faire une belle fête avec smoking blanc. Et nous, on ne va pas se marier, on s'est battu pour eux. Et eux, ils auront ce droit. Bon, tant mieux pour eux. Mmh. Mais oui, bien sûr, on aura un retour de manivelle. Parce que le mariage va, encore une fois, normaliser encore un peu plus l'homosexualité avec ses avantages et, bien sûr, ses désavantages. Je ne suis pas là pour critiquer cette normalisation, je pense que elle est quelque part importante. Après, il faut savoir garder des espaces de résistance là-dedans et, si possible, garder un peu un pouvoir subversif. Mais ça va être compliqué.
Je crois qu'on va, s'arrêter là. Maintenant, il y a deux points que moi, j'ai compris aussi de la fin de cette interview. On ne connaît pas les conséquences en réalité politique de toutes ces manifestations, parce que c'est une autorisation légale d'appeler au meurtre de minorités sexuelles, comme on peut appeler au meurtre de minorités raciales. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas un détail.
Non, ce n'est pas un détail. Il faut rappeler que ce week-end, il s'y sont passées des choses affreuses. D'une part, il y a eu donc le printemps, les associations LGBT qui étaient hébergées à l'espace Blanc-Manteau dans le Marais, qui étaient saccagées. Il y a eu des vitres brisées, il y a eu des affiches de Frigide Barjot collées partout. Tout ça filmé et mis sur YouTube en plus. Voilà, donc dans la totale impudence. Et puis surtout, il y a eu l'agression de un voire deux. On n'a pas encore tout à fait su comprendre. En tout cas, un couple de mecs, d'homo dans le 19e et peut-être une autre agression dans le 10e arrondissement. Donc oui, bien sûr, quand la parole se décomplexe comme ça, quand on donne l'autorisation d'avoir certains propos, bien sûr, les franges extrêmes se disent c'est notre moment pour casser du PD, pour casser de la lesbienne. Moi, aujourd'hui, je dois dire la vérité, jamais à Paris je me suis sentie en insécurité, jamais. Et aujourd'hui, en pensant à ce mec que d'ailleurs j'ai connu parce que c'est celui qui s'est fait vraiment casser la gueule et parce que c'est l'ancien compagnon d'un ancien collègue, j'ai eu à un moment donné une espèce de... J'ai tressailli un moment, je me suis dit « Waouh, peut-être dans mon quartier demain ça peut m'arriver ». Et c'est la première fois qu'à Paris j'ai cette sensation. Je ne veux pas céder à cette peur, mais c'est vrai que ça m'a fait mal.
D'accord. Mais écoute... Je te remercie. Je sais qu'il y a une manifestation qui va avoir lieu dans le Marais. Et je pense que c'est important d'être nombreux. C'est notamment important aussi, donc je crois que c'est devant la préfecture. C'est où exactement ça, c'est le truc, l'hôtel de ville, c'est ça?
C'est devant donc ça devait être dans la rue des Archives. Finalement, l'hôtel de ville donne l'autorisation pour être dans le parvis, sur le parvis de l'hôtel de ville. Donc ce sera demain à 19h. C'est ACT UP qui appelle à cette manifestation. Oui, 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 donc le collectif auquel j'appartiens appelle à cette manifestation, et je pense qu'il y a d'autres groupes qui appellent à venir, donc soyez nombreux pour manifester premièrement votre solidarité avec nous, mais deuxièmement aussi votre amour pour la liberté et votre détestation de ces relents fascisants que malheureusement sont très présents aujourd'hui en France.
Bah écoute, je te remercie. Peut-être qu'on va passer un petit peu de musique.
Ouais, on va faire une courte pause musicale, on revient tout de suite après. Merci.
Voilà, vous êtes de retour au fond près du radiateur tous les mardis 19h-20h30 et sans plus tarder, une petite chronique de fin d'émission. Donc une petite chronique autour de la grève qui se déroule encore et toujours à PSA Aulnay. Donc PSA Aulnay, c'est le site de production de Peugeot Citroën qui se trouve donc à Aulnay, qui est en grève depuis le 16 janvier. On vous le rappelle, on cessera pas de le dire parce que dernièrement, on dirait que ça a passé de mode, on en entend de moins en moins parler. Donc il y a un moment donné où nous on dit une fois de plus on prend le contre-pied les mecs et on lâche pas, et en face ça lâche pas non plus, hier c'était lundi, début de semaine, reprise de la grève, ça continue. On a eu l'occasion de discuter avec quelques grévistes et donc sans plus tarder on vous passe immédiatement l'entretien qu'on a pu faire avec eux hier matin.
Quand on était au ministère du Travail, on demandait aux gens qui travaillent là-bas, qu'est-ce que vous pensez du salaire de PSA, ce que vous entendez parler,
l'image que vous avez de nous, puis la réalité. Dans la réalité, dites-nous, vous avez tout à fait raison,
largeur.
C'est bien de lutter sans vous comprendre tout. Au niveau médiation, on a l'impression que tout est arrangé. C'est comme quand on fait les péages. Les gens qui la parlent, vous êtes qui, on est PSA, on est comme ça. Et ils sont un peu étonnés, quoi, quelque part, parce qu'on ne parle pas de nous. Mais qu'ils nous comprennent, ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Mais nous, le sentiment qu'on a, c'est les médias. C'est pas, ils sont rachetés, ils ne veulent pas parler de nous. Toi, ça, c'est... ça nous fait un tort. T'as l'impression, pour avoir les télévisions ici, c'est ce qu'il faut faire. C'est devenir des casseurs pour que, voilà, t'as toutes tes télévisions, puis là, c'est PS100 en boucle. Tu vois, sinon, quand tout se passe bien, tu fais des actions normales... Mais la direction, c'est quand elle nous fait le jeu, ils n'ont pas besoin de voiture, c'est faux, c'est archi faux. C'est histoire parce qu'au bout de 3 mois, parce qu'ils veulent nous faire croire ça pour nous démotiver en fait, pour dire que nous, on n'a pas lutté, on n'aura rien. Quoi. C'est un discours de sourd. Mais en fait, quand les bagnoles, on voit bien qu'ils en veulent. Hein. Même le 12 juillet, quand ils ont annoncé la fermeture, leur objectif, c'était pas de faire 500 bagnoles, hein. C'était de tourner normal. Et on l'a bien vu, hein. La moindre panne, ils étaient à la réactivité hein, tout de suite. Hein. C'est du pipeau, bien sûr, c'est du pipeau. On voit bien qu'ils ont besoin de bagnoles. Parce qu'à Poissy, il faut savoir qu'ils n'ont pas la capacité de faire tout ce que Aulnay devait faire. C'est clair. C'est le but de la direction, hein, nous faire céder. Surtout, tu sais, quand tu arrives à 3 mois, tu vois qu'il y en a qui reprennent le boulot parce qu'au niveau financièrement, ils sont inquiets et tout ça. Donc le but de la patronne, c'est quoi? Bah, de dire, bon, ils vont craquer d'eux-mêmes. Je donne rien, je céderai pas, je négocie pas. Mais il y a un noyau qui est là, on va aller jusqu'au bout. On est déterminé à aller jusqu'au bout. Comment... Il suffit juste d'entendre ça pour voir qu'on est motivé. La force des travailleurs, c'est clair. Quand tu es là, tu vois, hein, puis on a fait... je sais pas si vous étiez avec nous ce matin. On a fait notre briefing là pour retirer. Ben, on a vraiment demandé qui voulait vraiment lutter dans le noyau qui reste, qui voulait aller jusqu'au bout. Tout le monde a levé la main, sans exception. Parce qu'on se voit mal aller reprendre le boulot sans rien. C'est pas possible.
Pourquoi ?
On a commencé une bataille, on n'a rien obtenu, donc on va aller jusqu'au bout. Nous, on perd peut-être notre salaire, pas une partie, parce qu'on a quand même la compensation, mais le patron, il part des millions. Des millions. Et même les gens qui commencent à la Poissy, on a des échos, ils sont dégoûtés, parce qu'il y en a beaucoup compté sur l'équipe de nuit, et ça a été annoncé que l'équipe de nuit, ça allait s'arrêter dans un mois.
Allez mieux faire un bon.
L'équipe de nuit, ça motivait des gens parce que par rapport aux horaires, t'as pas la circulation de la journée. Donc il y en a beaucoup qui comptaient sur la nuit. Le fait d'avoir annoncé que dans un mois ça va être arrêté, ils auront beaucoup moins de volontaires pour partir à Poissy. C'est un petit plus pour nous. Des jours chômés aussi, ouais. C'est une préparation de la direction, ça aussi. L'histoire est pilée pour faire leur voiture. Ils ont fait quoi? Ils ont regroupé les intérimaires de l'équipe A et l'équipe B, c'est-à-dire ils font que le matin pour avoir l'effectif. Et les intérimaires, c'est plus facile à faire travailler qu'un embauché, parce que l'embauché, même, il reprend juste pour sa paye, mais il n'a pas envie de gratter comme... voilà. Il y a quand même l'état d'esprit avec les grévistes. Quoi. Et là, la direction, elle est mal, franchement, elle est mal. Bien sûr qu'elle est mal, mais ils ne le montrent pas.
Jamais.
Pourquoi? Leur but, au bout de 3 mois, c'est de ne pas s'affaiblir. C'est clair.
En tant que comme Peugeot, là, il va... Il va baisser la culotte, c'est pas possible. Et en plus, on est minoritaire, on n'est pas beaucoup. Dans sa tête, les minoritaires, ils vont le faire craquer. Alors, ils vont dire... Pour ça, tout le monde, ils sont contre nous. Médias...
La force des footballeurs.
C'est la gagne. D'ailleurs, voilà la direction. En face. Ils cherchent.
On a un médiateur. Là,
c'est un simple médiateur, on n'a pas réussi à obtenir. C'est quand même grave. Un médiateur. Il n'y en a aucun soutien, hein, ni gouvernement, ni rien, c'est ça qui...
Le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout. C'est qui donne l'argent au gouvernement? C'est les patrons. Alors, ils vont le MADEF. C'est eux qui donnent l'argent au gouvernement. Alors ils ne vont pas venir contre le MADEF. Mais contre le patron. C'est Hollande, tout le tralala, là, c'est des marionnettes. C'est le patron qui gère le pays. Il y a 4 familles qui gèrent la France ici.
Moi je me plains.
Et ça c'est connu, hein, même dans l'histoire. Hein.
Tous les grands boîtes, Jeffco, le pillage, le truc pétrolière, tous les grands boîtes qui existent en France, c'est Peugeot dedans.
Ils sont actionnaires dans les boîtes comme la Sanef par exemple. Peugeot, il est actionnaire.
Elle est partout, elle est dedans.
Jeffco, dans le pétrole, le transport, même, voilà.
Total, tout ça, elle est dedans.
Mais ce matin, ils ont annoncé qu'ils voulaient une banque.
Oui, dans la finance. C'est pas nouveau. Ils s'intéressent au système financier, bah bien sûr.
Le patron maintenant des Madoff, c'est en cas de...
À mon avis, s'ils ouvrent une banque, c'est parce qu'ils n'ont pas de thunes. Ou alors, ils ont dû trouver un tiroir avec quelques milliards et à faire fructifier.
C'est un gars de pays, ça, voilà. Ça veut dire que c'est qui gère le pays, quoi. C'est le gouvernement. Tous les grands patrons en France, ils sont avec lui.
Tous. Moi, pour moi, mon sentiment, c'est que les patrons, ils ont des caisses noires. Pour pallier à ce genre de... Surtout actuellement, depuis la crise. Ils se sont préparés, justement, pour pouvoir pallier à ce genre de choses. Parce qu'ils savent très bien qu'arrive un moment, à force de tirer sur la corde, ça finira par casser. Donc les ouvriers vont quoi, à se rebeller, faire des grèves, et voilà. Et leur but, c'est de ne pas céder. Ou le strict minimum. Voilà, donc ils ont un soutien. Pour nous, c'est depuis 2005, la fermeture du montage 2. Aulnay, il est en préparation depuis X années. Hein. La fermeture, c'est un programme, en fait. C'est pas la crise financière. Hein. C'est un calcul. Hein. Faire plus de pognon avec moins de salariés. Avec que des moutons, voilà, au service du patron. C'est leur souhait, de toute façon. C'est leur but. Hein. On l'a compris. Hein. C'est quand tu vois les délocalisations, tout ça, au départ on te dit que c'est pour vendre là où on va fabriquer. Mais en fin de compte, on se rend compte que c'est du pipeau. Parce qu'ils sont toujours en train de rapatrier les véhicules fabriqués à l'étranger en France, en Europe. Donc c'est quoi faire plus de profit. Et quand tu regardes leur objectif de production, il n'est jamais en baisse. Hein. Il est toujours. Ils mettent des objectifs, ils doivent mettre très haute la barre. Hein. Très haute. Et après, ils se basent toujours sur des années records en disant, voilà, on a perdu 16-20%. Mais sur quoi? Sur une production record. Sur du jamais vu, quoi. Ils font tout pour nous endormir. D'ailleurs, dans l'automobile, quand tu regardes les prix, on parle de l'automobile, elle est en crise. Mais ici, en France, moi, j'ai jamais vu, à part des ristournes, j'ai jamais vu baisser les prix ou stagner. Chaque année, ça monte. Par contre, on te parle des salaires, oui, c'est pour les stagner. Mais les prix des véhicules, jamais. De toute façon, la crise, même quand ça allait bien, il y avait la crise.
Quand ça l'arrange, voilà. La crise.
Même quand tout tournait bien, il y avait quand la crise. Tu demandais de la rallonge, t'avais que dalle.
C'est les patrons qui décident dans ce pays-là. Il n'y a pas qu'en France. Hein. C'est comme ça. C'est pas le gouvernement qui décide. Même le gouvernement, s'il va parler un truc, avant qu'il le dise à la télé, là, il le prépare, parce qu'il va parler, c'est ce que c'est dit, marionnette, partout, on va le voir, c'est partout. Regarde Hollande, quand il veut aller, par exemple, au Maroc, ou n'importe où, en Allemagne, ou n'importe quel pays, il emmène qui avec lui? Il emmène les ministres, les mecs qui les ont d'accord. Les bras droits de pays, je ne sais pas.
Non, mais tu sais, mon vieux et tout, je dis, ouais, mais c'est...
Moi, ça fait des années, je vois les choses comme ça. C'est pas le gouvernement qui gère le pays.
Le gouvernement, il s'aligne sur le patronat.
Eux, ils font leur...
Avant de faire quelque chose.
Liberté, fraternité, égalité, c'est des pipos. C'est des pipos. Et voilà. Par exemple, là, vous voulez faire des... Vas-y, vas-y, crier, gueuler.
On leur donne même un coup de main.
Il y aura pas d'assurance. Par exemple, c'est qui ils n'ont rien à foutre de nous. Ils n'ont rien à foutre de la population. Égalité, fraternité, ça c'est... Regarde la pauvreté en France. Il y en a pas mal. Il y en a pas que... Qu'est-ce que le gouvernement fait quoi? Il y en a des gens qui dort. Il y en a des gens qui n'ont même pas à manger. Et qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? C'est des marionnettes.
Sa propagande avec le changement, c'est maintenant. On n'a rien vu de tout ce qu'il a dit. Même pas un petit accord, rien. Que dalle pour ceux d'en bas. Que dalle. Il n'y a rien. C'est ce fut de la gueule du monde.
Ah oui, PDG qui ne touchait pas par jour 10 000 euros par jour. Le samedi, dimanche compris, et quelqu'un qui n'arrive même pas à manger, c'est normal, ça. Ils disent liberté, égalité. Oui, ça. Il n'y a que dalle. Il n'y a rien. Même les aides qu'ils ont, là, pour location familiale, pour l'aide logement, ça va être supprimé, tout ça. Même les médicaments, là. Les autres, viens me voir. Bientôt. C'est pas quelques années, ça va être. Parce qu'avant, à l'époque, après la guerre, là, la France, elle a besoin des jeunes, parce qu'elle a que des vieux. Alors, ils encouragent les gens, enfin, disons. Il met l'argent. Bon, la France, elle a pas mal de jeunes en France, elle a beaucoup. Ils ont pas de travail, ils n'ont rien du tout. Et la caisse, elle commence à se vider. Il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont taper quelqu'un. Où ils vont trouver l'argent? En plus, avec cette crise-là, ils vont taper à droite, à gauche, ils vont supprimer ça, ils vont augmenter ça. Regarde, ce qui va pas loin, regarde les trucs de radar, là. Soi-disant pour la sécurité. C'est des pipons, ça. C'est pour l'argent.
Remplir les caisses de l'État.
Remplir les caisses. Par exemple, les mairies, je parle des mairies. Chaque mairie en France, c'est un clan. Ils sont des voleurs tous. Il n'y a pas une mairie, ils sont tous des voleurs. Ils volent notre argent. Nous, on paye les impôts locaux à chaque mairie. Eux, c'est ce qu'ils font. Alors, ils font des travaux, des trucs dans le bled, là, pour faire montrer au public, voilà, l'argent, ils sont où. Mais c'est, par exemple, n'importe qui travaille à la mairie, un élu ou n'importe qui, il emmène toute sa famille, tout, il travaille dedans. Les cousins, la belle-sœur, la belle-mère, là, c'est un clan. Combien de jeunes qui travaillent? Pourquoi il y a beaucoup de vols, beaucoup de braquages, beaucoup de dealers de drogue? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Même les marchés. Même le mec, il a un commerce. Il emmène la marchandise du Maroc. Illégal. Pourquoi? Parce qu'il arrive pas. C'est la société qui veut ça. C'est eux qui nous traînent à ce point-là. Il faut montrer au monde entier qu'on est libre, on s'exprime, comme il veut, on s'exprime, tu vois. Mais vas-y, gueule dans la rue, fais ce que tu veux. On t'emmène les CRS, les gendarmes, comme ça. Allez, après, tu rentres. Non, pas plus. On a obtenu quelque chose. Rien. Il n'y a pas que nous. Combien de trucs ils ont sorti, les gens, pour avoir leur droit, ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont obtenu. Rien. Il faut leur apporter de force. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'on soit très, très, très nombreux. Il faut qu'il y ait des morts. S'il n'y a pas des morts, c'est ça la France. Là, notre grève, là, maintenant, c'est quelqu'un qui... Non, je souhaite pas quelqu'un qui est décédé à cause de... Là, notre problème, ça va être réglé tout de suite. Est-ce que tu trouves que c'est normal, toutes les cadres là qui sont là, les huissiers, ils nous surveillent, même pour jeter un boulon.
Ah ouais, c'est un poster. Tu dis ce que tu veux. Il n'a pas le droit de causer, c'est un poster. Il ne peut pas causer. Donc il n'a qu'une seule consigne, ferme ta gueule. D'où la chanson. Eux devaient la fermer, nous pas, et on chantait. Combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Combien ça coûte, quel est le prix de te faire détester ainsi par les grévistes qui te connaissent pas? Qui sans ça n'aurait rien contre toi. Ouais. Tu sais, nous on n'est pas méchants. On nous attaque, on se défend. Le patron nous dit casse-toi. Nous ce qu'on veut c'est garder nos emplois. Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Pense à ce qui pour que tu travailles. Les barres un jour et Peugeot, qu'on voit jamais dans l'abattage, qui tous te prennent pour un charlot. Avoue franchement que c'est quand même pas la vie que t'avais rêvé pour toi. Briser une greffe pour faire des heures. Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire... Dans le pire, le mec, il a fait des études.
Arrête, regarde. Il l'a touché, regarde. Ses yeux, il pétait.
Voilà, vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3 FM. Il est 20h30, passé de quelques secondes, donc on va vraiment faire speed la fin de l'émission. Je vous donne l'adresse de la caisse de grève pour soutenir les ouvriers de PSA Aulnay. Donc vous pouvez envoyer vos soutiens au nom de l'association Soutien aux salariés de l'automobile du 93, 1921 rue Jacques Duclos, 93 600 Aulnay-sous-Bois, ou alors www.soutien-salariés-automobile-93.org.
Véronica, si tu peux nous rappeler juste les adresses internet du Facebook, il y a un Facebook du collectif Oui 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 et un blog, s'il y a des gens qui veulent vous rejoindre, faire des choses avec vous.
Alors le site internet c'est www.ouioui.org, le Facebook c'est collectif Oui Oui Oui, il faut chercher, on trouve facilement.
Voilà,
ok, merci.
En tout cas, merci beaucoup d'être venue Véronica, et puis on se disait qu'on allait quand même... diffuser cet entretien sur internet sonsenlutte.net, sur notre site internet www.aufondprèsduradiateur.fr. Et puis bah, nous on remercie aussi tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient à la technique, qui sont partagés à la console, toutes celles et ceux qui luttent et qui sont derrière les barreaux. Et puis on fait une grosse dédicace à tous ceux qui nous ont écoutés aussi, et puis à tous les ouvriers en grève de PSA. Et puis nous on revient la semaine prochaine.
Et puis venez vendredi, on se voit vendredi.
Ah ouais, c'est ça, voilà.
Ouais, voilà, venez faire la fête vendredi, là, cherché, déconnez pas les mecs.
Je cherchais. C'est ça, voilà, 12 avril.
Avenue de la République à Bagnolet.
57 Avenue de la République. Métro Galigny, Robespierre, c'est FPP Dub Party. Tout de suite, on continue avec Zéro Hebdo. On parle aussi de la lutte des ouvriers de PSA dans Zéro Hebdo. Donc restez à l'écoute, 106.3 FM. On se voit la semaine prochaine, rediff à 7h du matin vendredi pour ceux qui se lèvent tôt. Et nous, voilà, ciao.